94.1.
Eh bien le bonjour à vous tous qui nous écoutez sur l'ensemble des fréquences de Radio Présence. C'est midi et c'est l'heure du Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Avec au sommaire de cette émission que nous allons passer ensemble et que j'ai le plaisir de partager avec vous, eh bien dans quelques instants nous serons en direct de Rome. Bonjour Enzo.
Ça.
Depuis le début de la semaine, nous vous suivons et nous allons vous retrouver dans quelques instants. Pour quelle raison, en fait, vous êtes à Rome? Rappelez-nous-le.
Et alors, nous sommes à Rome pour le jubilé des jeunes où des centaines de milliers de jeunes sont attendus à l'appel du Saint-Père pour justement recevoir la miséricorde et l'indulgence plénière. Alors, il y a eu plusieurs jubilés dans l'année. Et là, cette fois-ci, c'est le jubilé des jeunes, une sorte de JMJ organisé cette année où la jeunesse du monde entier se retrouve à Rome.
Merci Enzo, on vous retrouve dans quelques instants. Au sommaire donc de cette émission, eh bien, nous la poursuivrons avec la chronique verte de Benoît Guillard. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de la famille Labatte qui est située et qui vit dans les Baronnies, ce joli coin des Hautes-Pyrénées. Nous parlerons également, toujours Pyrénées, d'un lieu un petit peu particulier qui mérite votre visite si vous êtes en passage et en vacances dans notre région. Il s'agit de la marbrière de Paillol, avec des marbres que l'on retrouve jusqu'à Versailles et même jusqu'à l'Empire State Buildings aux États-Unis. Ce sera un reportage signé de Anne-Rose Jankovic. Et puis nous aurons évidemment la chronique littéraire de Catherine Albrecht qui nous parlera aujourd'hui de Joris Karl Jussmann. Voilà le programme de cette heure que nous allons passer ensemble et que je vous propose de débuter immédiatement avec vous. Enzo, vous êtes en direct de Rome. Que s'est-il passé durant ces dernières 24 heures?
Alors, ces dernières 24 heures ont été animées par un grand temps des Français au lycée français Châteaubriant. Alors, c'est un événement organisé par la Conférence épiscopale de France. C'était hier, un événement pour les étudiants et le jeune pro de festival appelé Ecclesia et Santos, où nous avons pu interroger les jeunes et ils nous ont confié leur ressenti sur ce festival, les choses qui les ont touchés. Et puis, nous sommes logés dans une paroisse que peut-être vous connaissez bien, à Lourdes, la paroisse Sainte Bernadette Soubirous, où les paroissiens italiens nous ont offert une soirée cohésion internationale placée sous le signe bien sûr du Christ, où nous avons pu échanger. Et pareil, ça a aussi vraiment porté les jeunes qui étaient présents. C'est des propos que nous avons recueillis hier soir et que nous écoutons dès maintenant. À Rome, le jubilé des jeunes 2025 bat son plein. Des centaines de milliers de jeunes venus des quatre coins du monde se rassemblent pour vivre un temps de prière et de fraternité et d'espérance. Hier, la Conférence épiscopale de France avait organisé deux festivals, Ecclesia pour les étudiants et Santos au lycée français. Nous avons pu interroger Nicolas qui a été touché par la dynamique spirituelle de l'événement pour les étudiants.
L'engouement de voir en fait tous les Français de toute la France entière en fait, qu'on connaissait ni d'un ni d'Ev, et en fait qu'on pouvait discuter directement, qu'on était tous déjà rassemblés dans le même but qui est célébrer en fait le Christ en fait dans ce jubilé. Et il y avait zéro tabou, on pouvait discuter avec tous les jeunes qu'on voulait, c'était très très convivial. C'est très beau, mais en fait, il y a aussi, c'est très important, comment en fait on vit l'après-jubilé, garder en fait cette foi qu'on a enrichie, qu'on a affermie, qu'on a réussi vraiment à refaire naître pour certains, de reprendre la communication avec le Christ, de regarder la foi, de regagner sa foi. Mais ça, en fait, c'est pas que sur une semaine à Rome. En fait, il faut garder après.
Et puis, le soir, la paroisse Sainte-Bernadette à Rome a organisé une soirée pour les diocèses français présents. Le diocèse de Pamiers, Auch, Tarbes-Lourdes et Cahors ont pu avoir une soirée cohésion. Pour Blanche, elle a vécu une soirée intergénérationnelle qui l'a beaucoup marquée.
On a pu rencontrer des étudiants et ça a pu nous approfondir dans nos choix pour plus tard. Parce que parler avec eux, ça nous a permis de découvrir différentes vocations. Comme moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé avec un militaire ou alors une future médecin militaire et aussi une biologiste. Et ça a pu carrément m'ouvrir des portes et les écouter était très intéressant.
Et puis pour Sybille, cette soirée lui a montré qu'elle n'était pas seule dans sa foi et que d'autres jeunes catholiques aux quatre coins du monde pensent comme elle.
J'ai fait les jubilés parce que j'ai tout d'abord commencé avec les JMJ.
et j'ai adoré ces moments qu'on partageait entre Français et entre d'autres pays. Donc pour moi, oui, c'est vraiment très important de voir que beaucoup de pays croient en la même chose que nous, qu'on peut être beaucoup à avoir cette vision, la même vision des choses.
Le jubilé 2025 continue encore jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, une journée placée sous le signe de la réconciliation avec les plus grands espaces de confession du monde à Circo Massimo. Et puis samedi, la fameuse veillée de prière à Tor Vergata avec le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Et dimanche, la fameuse grande messe de clôture du jubilé présidée par le très Saint-Père. Voilà des propos que nous avons recueillis hier soir pendant la soirée. Alors aujourd'hui pour le groupe de Cahors et tout l'ensemble des groupes présents à la paroisse Sainte-Bernadette Soubirous, rendez-vous à Circo Massimo pour recevoir le sacrement de la réconciliation pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Pour rappel, c'est l'une des conditions pour recevoir l'indulgence plénière qui est prévue pour le jubilé 2025, un jubilé placé sous le signe de la miséricorde. Pour rappel, vous pouvez aussi vous aussi le recevoir dans vos paroisses en franchissant les portes saintes décrétées par l'évêque de votre diocèse, en recevant la confession, en recevant aussi la communion et en priant pour les intentions du très Saint-Père.
Enzo, donnez-nous envie, qu'est-ce qui va se passer durant ce week-end ?
Et alors durant ce week-end, c'est vraiment le point d'orgue de ce jubilé 2025. Les jeunes ont rendez-vous à Tor Vergata, Tor Vergata hein, qui est un lieu connu hein, pour les catholiques du monde entier, puisque c'est là que s'est tenu en 2000 les JMJ et la clôture avec le pape Saint Jean-Paul II, où notamment on a pu voir cette image frappante d'un jeune qui avait réussi à franchir les barrières de sécurité et qui avait été voir le pape. Un échange très touchant. Le samedi soir, donc une veillée de prière et d'adoration eucharistique, et le lendemain, la messe présidée par le très Saint-Père, avec qui le monde entier hein, attend les premiers mots. Enfin, alors c'est pas forcément les premiers mots puisque mardi nous a fait la grande surprise en fin de messe de nous adresser quelques paroles. Mais voilà, le monde entier aura les yeux tournés vers Tor Vergata pour voir les premiers mots, les premières directions que le pape souhaite donner à cette jeunesse. Une jeunesse qui a besoin de repères, hein. On le ressent, que ce soit en parlant avec les Français ou avec les différents jeunes européens ou venus des quatre continents. Voilà, ils ont besoin d'un repère, d'une figure forte. Et donc, c'est peut-être ce que le pape va tâcher à faire et à prêcher durant son homélie, durant toutes ses prises de parole pendant la messe.
Enzo, merci beaucoup de nous permettre de vivre en direct ce jubilé des jeunes du diocèse. On vous laisse un petit peu en vacances durant ce week-end et on aura le plaisir de vous retrouver dès lundi prochain. Merci à vous, très bon week-end.
Merci à vous, merci beaucoup.
Radio Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Et sans transition, voici la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouverons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Eh bien aujourd'hui, pour la troisième semaine consécutive, je vous propose de rester dans les Baronnies, dans cette très belle région montagneuse. Située entre Bagnères et la vallée des Nestes, Tournai et les hauts massifs pyrénéens. Nous partageons depuis trois semaines maintenant la vie d'une famille agriculteur installée sur ce beau territoire, sur la commune d'Ascq, avec Loïc, Philippe et maintenant donc Pascal. On a vu très rapidement dans les derniers épisodes que la maison Labatte, elle a toute une histoire sur Ascq, au niveau agricole, que Philippe a investi pour valoriser au mieux l'outil, a développé une activité bovine, engraissage, et puis ovine. Et puis le fils Loïc est arrivé avec une opportunité, avec la reprise d'une exploitation et la création d'un atelier de porc en plein air, et avec l'idée de valoriser au mieux cette production. Et donc... Et Pascal, elle va nous expliquer un petit peu tout ça, est revenu sur l'exploitation pour justement appuyer la valorisation du porc en plein air en s'occupant de la transformation. Bonjour Pascal. Alors Pascal, moi je le sais, vous avez fait des choix très importants il y a maintenant quelques années, il n'y a pas très longtemps, au moment du Covid, on va dire, et vous allez nous raconter tout ça, puisque avant d'être à retour à la ferme et venir vous occuper de la transformation des porcs, vous étiez dans un autre monde qui était le monde de la santé et vous étiez infirmière.
Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai été infirmière pendant plus de 30 ans à l'hôpital de Bagnères-de-Bigorre. C'est un métier que j'avais choisi de faire après le bac. J'ai fait la formation à l'école d'infirmière et j'ai travaillé tout de suite en tant qu'infirmière. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce métier. C'est un métier dans lequel je me suis investie énormément. Peut-être l'âge arrivant, j'ai commencé à me sentir un petit peu en difficulté dans l'exercice de ma profession parce que ça avait changé, les codes ont changé un petit peu, le soin a changé un petit peu, ce qu'on demande aux soignants a évolué et j'étais un peu en décalage. Donc j'ai eu besoin, c'était avant le Covid, hein, que j'ai ressenti quand même cette lassitude un petit peu. Donc j'ai eu besoin de faire une formation et... Voilà, j'ai entendu parler de la formation de charcutier-traiteur. Mon fils, en parallèle, venait de s'installer en tant qu'éleveur de porc. Et donc, j'ai décidé de faire d'abord, de demander une disponibilité à l'hôpital pour faire cette formation. Donc, j'ai passé un CAP adulte à 52 ans. Voilà, j'avais l'âge du prof de charcuterie. Et j'étais avec des élèves de 17 ans. dans le CAP, mais qui m'a apporté beaucoup en fait en termes d'apaisement. Vraiment, c'était simple, c'était que du bonheur. Là, apprendre quand on n'a aucune pression dessus, c'est vraiment que du bonheur.
Elle a le sourire, hein, je peux le dire aux auditeurs, elle a le sourire, donc elle le vit très bien. Mais je peux imaginer qu'au départ, c'était aussi renoncer à un certain nombre de choses, revenir à la ferme, revenir à Ascq. C'est aussi renoncer à ce qu'on vivait, les liens sociaux qu'on avait, que ce soit avec les malades et avec les collègues. Donc je suppose que tout ça a été mesuré. Mais aujourd'hui, avec le recul, comment vous le vivez ?
En fait, quand j'ai fait la formation, j'avais pas forcément. Je me suis dit, je fais la formation, puis on verra bien. Et puis après, une fois qu'on est parti, on continue un petit peu et on voit ce que ça donne. Et effectivement, c'est renoncer à un métier que j'aimais faire. Hein. Mais c'était pour m'investir aussi auprès de ma famille. Et donc, une fois que j'ai été engagée avec eux aussi, je ne voulais pas les laisser tomber non plus. Donc, du coup, j'ai continué comme ça jusqu'au bout, au terme de ma disponibilité. Je suis encore en disponibilité de l'hôpital jusqu'à la fin 2025.
Formation, puis donc il a fallu investir, j'imagine, pour pouvoir créer cette charcuterie, entre guillemets. Et puis il a fallu trouver sa place. Au milieu de ces hommes, comment ça s'est passé tout ça ?
Oui, ça c'est quelque chose que je découvre aussi. J'ai jamais travaillé avec, on n'avait jamais travaillé auparavant ensemble. Ce que je découvre aussi, c'est que quand j'arrivais à l'hôpital, je savais ce que j'avais à faire dans la journée. Là, c'est quelque chose qu'on construit. Il faut aménager le temps et l'activité. Enfin voilà, il faut. C'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Bon, on y arrive, on trouve un autre rythme, je pense, maintenant. Et même si je suis un peu lente, peut-être, j'arrive à trouver ma place, je crois.
Voilà, on arrive, on fait sa place, il y a des investissements qui se mettent en place, et donc il s'agit d'élaborer des produits transformés, et puis les vendre, donc. Hein, et donc c'est soutenir la production de Loïc, hein, puisque c'est la production de Loïc essentiellement qui est valorisée, et aussi celle de Philippe, d'accord, les vaux aussi. Et donc après, donc satisfaire des clients, donc c'est aussi une autre approche. Et justement, ces clients, Philippe nous l'a expliqué tout à l'heure, il y a ces néo-ruraux hein, qui arrivent autour, là, et qui sont l'essentiel de la clientèle. Quel contact vous avez avec ces clients-là ? Quel contact et puis comment vous voyez ce marché aujourd'hui, vous, vu de la ferme, quoi.
Alors voilà, justement, ça, c'est quand même le côté aussi social, hein, parce que du coup, on est quand même tout le temps dans le milieu, dans le enfin en relation avec les clients maintenant, c'est plus des patients, mais voilà, on a fait un peu avec nos réseaux respectifs. Moi, au début, il y a quand même beaucoup de mes collègues qui étaient des clientes, qui sont devenues des clientes, et ensuite ben Loïc avec le rugby. Voilà, en fait, on a un peu nos réseaux chacun. Et c'est vrai, ce que disait Loïc la semaine dernière, c'est aussi beaucoup le bouche à oreille qui a fonctionné. Et après, ça, c'est vraiment une satisfaction parce qu'on est, fiers de ce qu'on fait, de l'élevage tel qu'on le pratique, avec le respect de la terre, des animaux et des humains qui travaillent à ça. Voilà. Pour nourrir les gens du mieux qu'on peut avec voilà une valeur une qualité. Voilà.
On sent bien qu'ici il y a beaucoup d'humanité, hein. C'est l'humain, et justement puisqu'il y a beaucoup d'humanité, bon Pascal, moi je vous connais aussi un petit peu parce que je sais que vous êtes investi sur l'église ici, hein. Je sais que souvent le père Lagurgue me dit il faut que Pascal, donc Pascal est très présente à côté du père Lagurgue, et donc peut-être nous porter un peu témoignage justement aussi de cet engagement à côté de tout ça, comment vous vivez ça, et avoir un petit témoignage de justement ce que vous apportez.
La foi, moi je suis tombée un peu dans la marmite, hein, parce que je suis d'une famille issue d'une famille voilà qui est très pratiquante. Moi je me rappelle que ma grand-mère elle faisait le chapelet tous les après-midi, etc. Donc bon, voilà, moi j'ai toujours été dans ce milieu-là. La foi c'est quelque chose qui m'anime et la pratique voilà quelque chose qui me soutient, qui me porte, l'investissement aussi auprès des autres. C'est une valeur voilà essentielle pour moi. J'ai essayé de transmettre à mes proches cette foi en la vie, en l'humain, en voilà, en la création.
Vous êtes témoin de ce que vous vivez auprès des autres, et que bah, ici on vous reconnaît comme étant quelqu'un d'investi et qui témoigne de sa foi, de sa joie et de son espérance. Donc ça porte aussi vraiment d'une façon importante le projet familial. Hein, c'est important d'avoir ça aussi au cœur de ce projet, et de voir comment cette famille elle continue avec confiance, hein, sur ce chemin à des endroits où d'autres auraient renoncé depuis longtemps. Donc je trouve que c'était important aussi de mettre ça un petit peu à la lumière. Alors ce sera la dernière question, Pascal. Comme les autres un petit peu, hein, c'est aujourd'hui là, avec le recul, quelques temps de recul après avoir abandonné le métier d'infirmière, s'est installé charcutier traiteur et vivre au cœur de la famille pour faire vivre et rayonner cette famille. Bon, vous l'avez dit, vous êtes bien maintenant, vous êtes bien, vous avez trouvé votre place. Qu'est-ce que vous souhaitez sur le futur pour la famille, pour l'exploitation, et puis aussi comment vous voyez l'avenir des jeunes dans ce monde-là?
Alors, qu'est-ce que je souhaite? Ben, c'est que notre fils qui a fait le choix de reprendre la ferme et d'en vivre, ben que pour lui les choses se passent le mieux possible, qu'il puisse rendre heureux sa famille et vivre heureux de ce métier qu'il a choisi, mais qui n'est pas sans contraintes et ni sans don de soi, enfin voilà, sans concession. Voilà, donc après, pour l'avenir des jeunes, je pense que les jeunes sont quand même en lien, peut-être un peu plus que ne l'étaient avant les agriculteurs. Ils s'informent, ils sont aussi... en tout cas, je vois ce qui s'est passé par rapport à l'abattoir, là. Je vois qu'ils arrivent à constituer une association qui veut voilà, essayer de travailler ensemble pour que ça reprenne de l'activité. Et voilà, ce que je souhaite, c'est ça, c'est qu'ils ne restent pas isolés, et parce qu'ensemble, toujours, on est plus fort. Voilà.
Super, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas, merci à toute la famille, merci à Philippe, à Loïc et à vous, Pascal, de nous avoir accueillis. Moi, ça me tenait à cœur de faire découvrir à nos auditeurs dans cette belle région des Baronnies qu'il y a une agriculture qui se bat pour exister, pour être pérenniser un petit peu cet art de vivre, et puis qui est plein d'espérance et qui se bat avec les jeunes qui continuent. Donc je trouve que c'était un beau témoignage et merci à tous les trois et au plaisir. Au revoir.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Merci à Benoît Guillard de nous faire vivre et de nous partager toutes ces expériences basées sur l'encyclique papale Laudato aussi. On se retrouve dans quelques instants. Nous partirons en promenade du côté de Payol dans les Hautes-Pyrénées. Un reportage qui nous sera proposé par Anne-Rose Jankovic juste après le Buena Vista Social Club. Tchan tchan.
Nous voici à Payol. Bonjour, monsieur Pierre Maviel.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Vous nous accueillez ici, pas très loin du lac de Payol, et devant l'ancienne carrière de marbre, vous allez nous faire visiter le musée qui est associé à cette ancienne carrière, qui s'appelle, je crois, les marbrés de l'Espiadé, c'est ça ?
Voilà, vous avez tout dit là, pratiquement.
Ah non, vous allez nous dire encore beaucoup de choses.
Je vais vous en dire un petit peu plus, c'est-à-dire que je vais vous dire tout simplement que le marbre en tant que marbre n'existe pas en tant que pierre au départ. C'est-à-dire le marbre est un calcaire qui a subi certaines modifications, on va dire, hein, et il ne devient du marbre qu'à partir du moment où la pierre est travaillée, polie et lissée.
Ah. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un art, c'est une manière de travailler la pierre.
Et il faut savoir qu'ici, la pierre était simplement découpée, était envoyée ensuite à l'endroit où elle devait être travaillée, chez des marbriers, surtout à Bagnères-de-Bigorre. Et là, si vous voulez, la pierre elle-même était travaillée pour devenir du marbre.
Là, nous nous trouvons dans ce qui est aujourd'hui un musée, qui était en fait l'atelier.
Un mini-musée, c'est tout simplement ici, d'ici que partait la découpe de la montagne, à partir de 1913, quand ça a été électrifié. C'est-à-dire qu'on découpait les morceaux de montagne, hein, avec un câble, que si vous avez l'occasion de venir voir, on peut vous montrer, parce qu'il y a eu d'abord un câble spécial hélicoïdal, ensuite on est passé au câble diamanté. Hein. Ce sont toutes les choses qu'il faut venir voir ici pour pouvoir comprendre tout ça.
Voilà, alors on va essayer de faire une visite quand même pour les auditeurs de Radio Présence, en décrivant au mieux pour qu'ils puissent s'imaginer et puis venir eux-mêmes à Payol, parce qu'en plus, le coin vaut le détour quand même. Alors, juste à l'entrée de ce musée, qui est donc l'ancien atelier, hein, il y a des espèces de grosses roues, donc ça servait à faire ce que vous venez de nous expliquer ?
Voilà, ces gros trous, comme vous dites, vous verrez qu'il y a des grosses roues en l'air, qui sont des roues d'entraînement qui avaient des courroies, qui permettait d'entraîner d'autres roues qui sont plus minces et qui sont crantées. Dans ces crans passait un câble qui, justement, pouvait faire pratiquement 1 kilomètre de long et qui partait sur la carrière pour faire la découpe de la carrière à partir de 1913.
Alors, quand on parle de découpe de la carrière, ça veut dire de quelle taille étaient les blocs qu'on découpait ? C'était à chaque fois d'énormes blocs ? De quelle dimension, quel poids ?
Ce sont des blocs qui pouvaient faire de très, très grosses tailles au départ. Et une fois qu'on les avait bougés, un bloc comme ça, par exemple, qui pouvait faire environ 50 tonnes. Ah oui. On bougeait ce bloc, et ensuite, ce bloc, on le redécoupait, de manière à obtenir des blocs entre 3 et 5 tonnes à peu près, de manière à pouvoir les manipuler, les bouger, et les amener là où il fallait les travailler.
Alors là, vous nous avez dit il y a quelques instants que le câble a facilité ce travail, mais à partir de quand on a commencé à exploiter la pierre ?
Disons qu'ici, cette carrière a été exploitée déjà il y avait un siècle environ.
Ah oui.
Les Romains avaient commencé à l'exploiter. Et ici, à la carrière, on peut vous montrer une image qui montre un carreau de verre de Vecque de Campan qui se trouve sur la Via Appia à Rome, une voie qui réunissait autrefois Rome à Naples. Et il y avait un siècle, et les Romains qui étaient venus faire une bataille ici avaient certainement prélevé des pierres, parce que cette pierre-là ne peut provenir que de cette carrière.
Attendez, vous êtes en train de nous dire que cette pierre qu'on voit ici, tout près, là, à quelques pas là, de là où nous nous trouvons tous les deux avec vous, Monsieur Maviel, elle est connue depuis longtemps, un petit peu partout dans le monde.
Ah ben oui, parce qu'en plus, si vous venez sur le site ici, on peut vous montrer pas mal d'images. Et il faut savoir que cette carrière, on peut trouver des pierres de cette carrière pratiquement partout dans le monde, ne serait-ce que ce soit à Berlin, à Vienne, à Rome, à Sydney, à l'Opéra de Sydney, à l'Empire State Building à New York. Tout le sol est fait en pierre d'ici, ainsi que, bon, on va dire à Paris, l'Opéra Garnier, Versailles, bien sûr. Alors là, Versailles, c'est énorme. Oui. Entre la Galerie des Glaces et surtout le Petit Trianon, où on trouve beaucoup, beaucoup de marbre d'ici.
Qu'est-ce qui fait que ce marbre est particulier? Il peut y en avoir partout ailleurs, enfin, dans d'autres endroits de France ou d'ailleurs, de la pierre comme ça de qualité. Qu'est-ce qui fait que ce marbre-là, cette pierre-là, eh bien, elle séduit et qu'elle est particulière?
Il faut savoir aussi autre chose, c'est que c'est vrai, elle séduit, tout simplement parce que toutes ces carrières, parce qu'il y avait énormément de carrières dans les Pyrénées, entre autres, et ailleurs aussi, chaque carrière a sa particularité de couleur. On ne trouve pas la même couleur dans toutes les carrières. Elles ont des couleurs spécifiques.
Ça, c'est lié à quoi? C'est à cause de quoi?
Ah ben c'est lié à la nature elle-même qui a créé à l'époque, a eu des pressions, qui a eu assez extraordinaires, de grandes chaleurs et compagnie, qui ont fait qu'il y a des couleurs qui se sont dégagées. Et on ne retrouve pas les mêmes couleurs dans tous les endroits des carrières. C'est-à-dire qu'ici, il y a cinq couleurs de base, ce qu'il n'y a pas dans les autres carrières. Dans les autres carrières, on trouve une à deux couleurs de base. Ah ouais. Ici, on va trouver jusqu'à cinq couleurs de base, c'est-à-dire le vert de Campan, le grand mélange, un rose vert, un griotte, un rouge, et ensuite il y a du gris également, mais du gris on en trouve dans beaucoup d'endroits.
Et en termes de qualité, c'est la même qualité quelle que soit la couleur?
La qualité c'est la même, par contre il faut savoir que ces marbres-là sont des marbres d'intérieur plutôt que d'extérieur, parce qu'autrement ils s'altèrent avec le temps, ce qui n'est pas le cas par exemple d'un Carrare. Un Carrare c'est différent, on peut le mettre à l'extérieur, il ne changera pas beaucoup parce qu'il est comme ça.
C'est-à-dire qu'une fois que la pierre est travaillée, qu'elle est placée, donc plutôt en intérieur, l'intérieur le protège. Si on la travaille et qu'on la met en extérieur, là, on l'expose à des fragilités.
Voilà, quand on la met à l'extérieur. Mais à l'intérieur, après, elle ne bougera plus. Mmh. Elle va garder sa clarté. Vous regarderez, si vous avez l'occasion d'aller à Versailles, surtout Versailles, parce que là, au Palais des Glaces, vous avez tout simplement des endroits où on trouve ce marbre. C'est le même depuis 4 siècles, pratiquement. Oui. Quoi.
Hein? Oui. Et ça, ça ne bougera pas.
Ça ne bougera pas. C'est comme ça, ça a été bien travaillé, c'est ce qu'il faut.
Alors, cette carrière, elle a été exploitée pendant combien de temps? On voit que vous nous avez dit, là, déjà, les Romains s'y étaient intéressés. Alors, c'était peut-être assez ponctuel. Après, on voit que ça s'est développé. Ça a duré combien de temps, ça?
Ça a duré quand même assez longtemps. Disons qu'on n'a pas de traces entre le moment où les Romains ont commencé à l'exploiter, donc il y avait un siècle. Il y a dû passer quand même 12 ou 13 ou 14 siècles sans qu'on ait de traces de l'exploitation de cette carrière. Mais depuis Henri IV, pratiquement, François Ier, et surtout après Louis XIV, à partir de ce moment-là, elle était exploitée à peu près régulièrement.
Donc ça veut dire qu'il y avait une entreprise vraiment avec des ouvriers qui étaient là pour ça, dédiés vraiment à ça?
Oui, oui, il y a beaucoup d'ouvriers qui ont travaillé sur cette carrière. Par contre, l'exploitation s'est terminée aux alentours de 1990. Suite, on pense à la concurrence de maisons comme Ikea et compagnie qui fournissaient des produits de couleurs similaires, on va dire, tout simplement, pas de qualité, parce qu'ils en sont très très loin. Mais bon, disons que ça coûtait beaucoup moins cher et les jeunes, ils préféraient acheter des choses qui ne durent pas plutôt que de quelque chose qui dure.
Voilà. Donc ça veut dire que l'exploitation s'est arrêtée alors que, en fait, de la pierre, du marbre, il y en a encore. Enfin, on n'a pas exploité toute la montagne, peut-être tant mieux d'ailleurs.
Non, on a même, je pense, très très loin d'avoir exploité toute la montagne. Et c'est vrai que, bon, si vous avez l'occasion de venir sur le site, vous allez voir, il y a certaines terrasses qui sont de toute beauté. Et on voit qu'en profondeur, il va y avoir énormément de pierres encore qui seraient exploitables.
Ça va jusqu'où, là, le bloc de pierres qui est potentiellement exploitable? C'est vraiment ici à Paillol ou ça court
Je pense qu'on n'en connaît pas les limites. Parce que dans les Pyrénées, on en trouve beaucoup, beaucoup d'endroits où il y a des justement, mais où s'arrête la possibilité d'exploitation, ce serait très difficile de le dire.
Alors, peut-être ailleurs dans les Pyrénées, mais pas forcément avec ces nuances de couleurs.
Ah, mais comme partout. Il y a de très beaux marbres, on va dire, au Portugal, du côté espagnol, il y a, en Italie, partout. Il y a beaucoup de très jolis marbres. Mais par contre, chacun a sa particularité et ses motifs spéciaux. Et il était absolument impossible de faire deux pièces de dimension pareille, ça c'est sûr, on pourrait en faire 1000. Mais aucune n'aura exactement le même motif. C'est pas
donc possible. Chaque pièce est unique.
C'est pas possible, d'accord.
Alors, quand on dit travailler la pierre pour qu'elle devienne du marbre, vous avez poli, façonné, quels outils on utilise exactement ?
Façonner, c'est travailler, bien sûr, on commence à la dégrossir, et quand on a obtenu la pièce qu'on veut finir, on va dire, hein, à ce moment-là, il faut la polir. Alors, on part avec un grain de 50 pour ceux qui connaissent le polissage, hein, comme pour le bois par exemple. Mais pour le bois, on va arrêter les grains, on va dire au niveau de 180 à 240 à peu près pour le bois, et on obtient un très joli bois. Là, par contre, et on arrive à des grains de 3000, 5000 jusqu'à 8000. C'est-à-dire, on tire presque la feutrine, et là, ça, on obtient un poli brillant qui est très très beau.
C'est une pierre qui est fragile à travailler. Qui peut se fendre.
Oui, oui, c'est une pierre assez fragile quand même. Elle se travaille assez facilement, on va dire. Mais elle est fragile quand même. Hein. Il ne faut pas la faire tomber et tout, parce qu'elle peut casser, tout simplement. Hein. Elle casse facilement. Hein. Ce n'est pas du granit. Ce n'est pas tout à fait similaire au granit.
Alors vous, Pierre Mainviel, vous avez travaillé là ?
Non, jamais, non. Je n'ai rien à voir avec ça.
Alors, vous n'avez rien à voir, mais alors comment ça se fait-il que vous soyez ici ?
Eh bien, ce n'est pas compliqué, parce que c'est ma cousine Germaine qui avait créé cette association, et c'est elle a créé cette association l'année pratiquement où j'ai arrêté moi de travailler, et elle m'a demandé de venir donner un coup de main pour venir mettre tout ça à jour, venir montrer ce qu'on pouvait montrer de cette carrière. Mais ça fait 20 ans que j'y travaille maintenant. Hein.
Et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire ?
Ah ben tout, et d'abord le panorama, vous savez, Payolle c'est un petit paradis, on va dire, ouais. Hein. C'est de toute beauté. Donc là, il n'y a même pas photo, on ne parle pas de travail, on parle de beauté. Plaisir. Voilà, tout simplement.
Qu'est-ce qui intéresse dans cette histoire-là ? Alors j'imagine qu'ici, dans ce musée qu'on va visiter, hein, avec le micro de la radio, qu'est-ce qui intéresse les visiteurs ? Et est-ce que les gens de la vallée sont réceptifs à cette histoire ? Est-ce qu'il y a une notion de transmission qui est importante ?
Mais de la vallée, je ne dirais pas que c'est... Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Et, oui, ils font pas attention. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes qui passent comme ça, certains tout à fait par hasard. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'à 100%, les gens repartent satisfaits, et même très satisfaits d'avoir vu ce qu'ils ont vu. Ouais. C'est vrai que bon, nous proposons quand même des explications au départ. Nous proposons ensuite des projections vidéo, surtout bon, sur Versailles, bien sûr. Ensuite, sur la formation des Pyrénées. Et puis, on a quelques autres petites vues à montrer. Et voilà. Et ensuite, on les envoie sur le site. Et sur le site, là, ils ont de quoi voir. Ils ont beaucoup, beaucoup de choses à voir.
Ça m'étonne que vous disiez que dans la vallée, c'est une histoire assez méconnue. Parce que j'imagine quand même qu'il y a une époque, peut-être pas si lointaine que ça, où les gens de la vallée travaillaient ici. C'était aussi une ressource économique pour la vallée.
Oui, mais bon, même je pense que dans les travailleurs, il y a beaucoup quand même, on va dire, beaucoup d'Espagnols, Portugais, qui étaient venus en France, et qui des gens qui travaillaient. Après, bien sûr, il y a des gens de la vallée qui ont travaillé ici, on en connaît beaucoup, qui sont de la CEO et compagnie, et même de Bagnères de Bigorre, qui sont venus travailler sur la carrière, ça c'est incontestable. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens maintenant de la vallée, ils y font moins attention. C'est tout simplement. Et vous savez, nul n'est prophète en son pays. Et là, c'est le cas, on peut le dire. Il n'y a pas beaucoup de gens de la vallée qui viennent visiter la carrière.
Pourquoi ça s'est arrêté, ce travail ?
Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la concurrence et le prix de revient quand même de la marchandise. Hein. Bon, il faut avoir quand même des moyens assez importants maintenant quand on veut se payer une salle de bain en marbre. Je veux dire, bon, il faut quand même avoir des moyens un peu au-dessus de la moyenne, tout simplement. Ouais. Hein.
Voilà, donc il n'y a plus le même travail, mais il y a quand même un travail de valorisation de ce patrimoine, parce qu'on peut parler quand même d'un patrimoine.
Ah mais c'est complètement un patrimoine, attendez, c'est superbe. Quand on voit ce qu'on a ici, les possibilités qu'il y a, c'est sûr qu'on peut parler de patrimoine. Ça, c'est le mot n'est pas usurpé, on va dire. Hein.
Alors aujourd'hui, les carrières, elles sont visibles, mais elles ne sont pas accessibles, à moins de venir visiter le musée. On ne peut pas s'y promener comme ça, au détour d'une balade. Est-ce que c'est un patrimoine protégé ?
Disons qu'au départ, justement, quand je parlais de ma cousine Germaine, là, qui a créé cette association, elle avait eu pendant pratiquement une quinzaine d'années cette carrière se faire piller, entre guillemets, parce que les gens venaient avec des remorques, ils chargeaient, parce qu'il y a beaucoup de pierres qui sont restées, bien sûr, à suspens. Quand l'utilisation. Ah ben oui, les gens venaient charger carrément.
Enfin, ça s'est pas arrêté du jour au lendemain, quand même.
Ah, mais ça s'est arrêté du jour au lendemain. L'exploitation elle-même s'est arrêtée pratiquement du jour au lendemain. On va dire en 1991, par exemple. Bon, on n'a pas le jour exact où ça s'est arrêté, bien sûr.
Mais quand ça s'est arrêté, les ouvriers sont partis et ont laissé travail en plan.
Ah, ben oui, c'était comme ça. Ils ont tout laissé comme ça. Ils ont remis à jour parce qu'ils avaient certaines choses à faire pour la sécurité, on va dire, de la carrière. Hein. Mais après, c'était à ciel ouvert, c'était ouvert à tout le monde.
Donc les gens venaient se servir.
Donc les gens venaient se servir parce que tout simplement, ils avaient des cailloux par terre. Après, moi, on ne peut pas les critiquer parce qu'il n'y avait rien qui les empêchait de le faire.
Et même ça, pas, aujourd'hui, c'est plus possible.
Même pas de panneaux ni quoi que ce soit. Il n'y avait rien. Alors justement, Germaine a fait qu'on clôture d'abord la carrière de manière à pouvoir empêcher d'abord les gens que...
Elle est formidable, votre cousine.
Ben oui, la pauvre est décédée il n'y a pas très très longtemps, mais bon.
Quelle femme.
Énorme. On n'avait pas l'ombre d'une idée.
Ah ben, je commence un peu. Alors, est-ce qu'on se promène un peu dans ce musée ?
Oui, on peut se promener. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est sûr que le fait de venir ici, justement, voir tout ça, ça permet à vous de poser des questions, de manière à vous amener des réponses par rapport à tout ce que l'on présente ici. Parce que bon, on présente bien sûr la route du marbre, on présente le marbre de Campan, c'est qu'on le retrouve pratiquement partout dans le monde. Ensuite, il y a une partie géologie, il y a une partie sur la carrière faune, flore, il y a des panneaux un peu partout qui donnent beaucoup, beaucoup d'explications. Et oui, c'est sûr que la visite est, on va dire, préférable.
Voilà, exactement. Alors, il faut quand même que les auditeurs le notent, hein, dans leur agenda. Voilà. À un moment, il faut prévoir de venir ici. On peut quand même peut-être citer, vous en avez dit quelques-uns tout à l'heure, mais alors évidemment, le château de Versailles, c'est peut-être le plus prestigieux. Et puis après, il y a des lieux qui sont proches de chez nous, hein. Je vois l'abbaye de l'Escaladieu.
Là, oui, bien sûr, près de chez nous, il faut dire que dans les maisons que...
Les Pyrénées en ont profité.
Autour de Bagnères de Bigorre et partout, toutes les maisons qui ont été construites, on va dire jusqu'en 1950-60, dans les années 50-60, on trouve du marbre pratiquement partout. Voilà.
Alors ça va faire plaisir aux Gersois qui nous écoutent. Il y a la cathédrale d'Auch aussi.
Allez-y à vous.
Voilà pour ce reportage, la suite de ce reportage dans une poignée de secondes.
Radio Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Il est 12h37, très exactement à la pendule de Présence. On fait un point complet sur l'actualité dans notre région.
Bonjour à tous. À Decazeville, un mois après la tornade du 25 juin, la ville répare en urgence les dégâts causés au stade municipal. Une partie des tribunes et le clubhouse ont été lourdement touchés. Des travaux de sécurisation sont en cours pour permettre une reprise des matchs dès septembre. Estimés à plus d'1 million d'euros, les dégâts attendent encore d'être indemnisés. En attendant, la commune de Flagnac prête ses terrains pour assurer la continuité du sport local. À Tarbes, un immeuble en péril situé rue Maréchal Foch a été entièrement démoli après plusieurs années de procédures engagées par la mairie. Le bâtiment, fragilisé par un ancien canal remblayé qui passe sous la rue, menaçait de s'effondrer. Un arrêté de péril avait été pris avec mise en sécurité des piétons. Propriété de la foncière parisienne Tarbes Invest, l'immeuble n'a finalement pas été rénové mais détruit pour des raisons de sécurité. La municipalité espère désormais attirer un promoteur pour valoriser cette parcelle stratégique en centre-ville dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. La commune de Blanc, dans le Tarn, fait face à un déficit de près de 3 millions d'euros, révélé par la Chambre régionale des comptes. Ce déséquilibre financier est lié à des travaux importants, notamment la sécurisation de la traversée du village et la construction d'une maison des associations. pour redresser la situation, un emprunt d'1,8 million d'euros semble inévitable. Le maire assure qu'il s'agit d'un problème administratif et souligne que la commune reste peu endettée. Le budget 2026 fera l'objet d'un nouvel examen. Et passer son permis de conduire devient un vrai parcours du combattant en Haute-Garonne. Selon la préfecture, il faut désormais attendre 88 jours en moyenne pour repasser l'examen après un premier échec. En cause, un afflux de candidats liés à la réforme du permis à 17 ans, au CPF moto, mais aussi un taux d'échec qui dépasse les 40%. Face à cette saturation, la préfecture recommande une meilleure préparation et invite les candidats à ne pas le passer trop tôt. À l'Île-Jourdain, la base de loisirs connaît une affluence record cet été. Pour accueillir les nombreux visiteurs en toute sécurité, la municipalité a renforcé les aménagements sur le site. Une zone 30 a été instaurée sur l'avenue du bataillon de l'Armagnac, accompagnée d'écluses pour ralentir la circulation. L'accès piéton vers les gîtes a aussi été repensé avec un nouvel escalier suite à une demande de la SNCF. Par ailleurs, des bornes escamotables ont été installées pour sécuriser les événements organisés sur place, tout en préservant l'activité du centre-ville. Et enfin, deux agriculteurs aveyronnais participent à la 20e saison de L'Amour est dans le pré, bientôt diffusée sur M6. Parmi eux, Mathieu, 28 ans, élève 455 brebis laitières à Rebourguil, dont le lait est destiné à la production de Roquefort. Timide mais passionné, il espère y rencontrer l'amour et fonder une famille. L'animation animée par Karine Lemarchand mettra une nouvelle fois à l'honneur la vie rurale et les cœurs à prendre. La série devrait démarrer à la rentrée, sachant que les portraits des candidats avaient déjà été diffusés en janvier 2025.
Voilà pour ce journal qui nous était proposé depuis quelques semaines déjà, et puis encore pour quelques semaines, par Carla Ponce, qui est élève à l'école de journalisme de l'ISCPA de Toulouse. C'est l'été sur Radio Présence et Anne-Rose Jankovic est partie en début de semaine en reportage dans les Hautes-Pyrénées, à Payolle plus précisément et plus particulièrement sur les marbrières de cette commune, des marbrières un petit peu particulières puisqu'on retrouve de ce marbre tout autour du monde. C'est ce que va nous dire le guide qui a accompagné Anne-Rose Jankovic dans cette découverte.
C'est une marbre qui est très cotée et donc quelque chose qu'on trouve pratiquement partout dans les grandes capitales du monde. Que ce soit à Berlin, à Vienne, à Sydney, en Australie. Les grands thermes de Bagnères sont entièrement en marbre aussi, mais ce n'est pas du marbre. C'est du calcaire, parce qu'autour de Bagnères, il y avait au minimum 3 carrières. Donc Bagnères avait les pierres sur place. Et si vous avez l'occasion d'aller faire un tour au musée du marbre à Bagnères, croyez-moi, ça vaut le coup. Le plus grand musée d'Europe. Il y a une pièce, entre autres, qui est... il y a une table qui est en grand antique, je crois. C'est un marbre noir et blanc qui est du côté de Saint-Giron, par derrière, là-bas, je ne me rappelle plus exactement où. Et c'est une table qui se trouvait à la poste de Toulouse, qui servait à l'époque, les gens, ils faisaient des messages, ils écrivaient leur télégramme et tout ce qui s'en suit sur cette table-là. Et cette table, c'est une pièce de marbre qui était au départ d'un seul tenant et qu'ils ont partagé comme un livre, qu'ils ont coupé dans le sens de la longueur. Et elle fait quand même 5 mètres de long, sur environ 1,20 m de large, d'une seule pièce comme ça, mais partagée simplement en deux, ce qui fait qu'on retrouve d'un côté les mêmes motifs que de l'autre côté, parce qu'elle a été partagée dans le sein de la hauteur. Mais elle est de toute beauté. Rien que cette pièce-là, c'est énorme, c'est à voir.
Elle est où, cette pièce, maintenant?
Comment?
Elle est où, cette table?
Eh bien, à Bagnères du Nord, dans le musée du Marbre. Parce que, quand avec le numérique et tout ce qui s'ensuit maintenant, si vous voulez, la poste de Toulouse n'en avait plus besoin. Et il y a une vingtaine d'années à peu près, il y avait le maire Roland Castel à l'époque à Bagnères de Bigorre, il était en contact avec eux, et ça a été offert par la poste de Toulouse à la ville de Bagnères. Mmh. Et elle se trouve là.
D'accord. Okay. Elle partait comment? Voilà. Elle partait...
Alors, les pierres, elles partaient par terre, on va dire. Et là, bon, il fallait des bœufs pour tirer les charrettes, parce qu'une charrette ne portait qu'une pierre. Parce qu'une pierre entre 3 et 5 tonnes ou 6 tonnes, je veux dire, c'était largement suffisant. Et il arrivait qu'ils attellent 15, 16, 17, 18 et même plus de paires de bœufs pour pouvoir tirer une pièce. Parce que dans les montées, il fallait les tirer. Oui. Hein? Et ensuite, de l'autre côté, quand ça descendait, par contre, il fallait les retenir. Oui. C'est pour ça qu'il y a d'un autre côté, il y a des chemins de lisse. Au départ, ils passaient par Vanières de Bigorre, mais c'était beaucoup trop long. Ensuite, ils ont raccourci, ils sont passés par la colline derrière, et ils voulaient, ils retombaient du côté de Sarancolin, et là, ils chargeaient sur la Neste. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez, vous allez avoir sur des radeaux. Le problème, c'est que à l'époque, comme le temps ne comptait pas, ils passaient des morceaux qu'ils avaient le temps de passer tranquillement, et quand il y avait la fonte des neiges, et quand il y avait assez d'eau pour supporter le poids d'un radeau, disons, chargé d'une pierre comme ça, c'est à ce moment-là qu'il le transportait, il l'envoyait vers Montrégeau, et ensuite ça partait sur Toulouse, la Garonne, et ça allait jusqu'à Versailles. Il l'a mené jusqu'à Versailles comme ça. On a fait juste cet exemple-là, oui. Autrement, beaucoup de morceaux s'arrêtaient aussi à Bagnères de Bigorre. Mais ça c'était du temps de Louis XIV, ça. Hein.
Il y avait combien de personnes là, qui travaillaient ici, au maximum ?
Ici, je ne pense pas qu'il y en avait beaucoup. On ne sait pas exactement combien il y en avait. Il devait y avoir, on va dire, entre 30, 50, je ne sais pas, on ne sait pas exactement.
Par réparti contre, entre là, la partie technique
dedans,
et puis...
Dedans, personne ne travaillait. Pratiquement.
Personne ne surveillait les machines et le...
Ah, moi aussi, bon, une ou deux personnes. D'accord. Mais pour s'occuper des machines, il n'y avait pas trop de personnes. Les gens travaillaient sur le site. Ouais. Bon, sur le site, il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, à Bagnères de Bigorre, il y avait près de 1000 personnes qui travaillaient sur du marbre. Ouais. Il y avait énormément de marbriers, bien sûr. Ouais. C'était une matière première. Ouais. Si vous voulez, c'était... Voilà,
c'est vraiment l'économie locale.
C'était l'économie locale. Ouais. Bagnères, on le sait, c'était la laine, c'était les thermes et c'était le marbre, hein. C'était, vous savez, ils travaillaient toutes ces matières-là. Il y avait énormément de gens qui travaillaient à l'époque. Tout le monde travaillait, on va dire, tout simplement. Oui. tout le monde travaillait maintenant. Bon, enfin.
Comment on les appelait, les ouvriers
d'ici ? C'était marbriers, tout simplement. Marbriers. Hein. Ouais, on les appelait marbriers, comme ceux qui travaillaient le marbre. Ouais. Mais après, c'était, non, on va dire plutôt des carriers.
Ah, des carriers.
Des gens qui travaillaient sur la carrière. C'était des carriers, plutôt. Alors, ici, vous avez la machine d'origine. Celle qui a électrifié, disons qu'elle était alimentée par cette turbine et ce rotor qui se trouve à environ à moins d'un kilomètre en dessous de Payolle. Quand vous descendez depuis Payolle vers Bagnères, hein, à droite, vous faites quelques centaines de mètres, on va dire. Sur la droite, bon, on ne la voit pas trop parce que c'est... Mais elle n'est pas loin de la route, elle doit se trouver à 10-15 mètres de la route. Et si vous voulez, là, par contre, ça, on ne le voit pas. Elle est avant le pont de Wayassat, ce qu'on appelle le Wayassat. Il y a un peu au-dessus, c'est un peu risqué d'y aller. Hein. Moi, j'y suis allé, mais c'est par contre, c'est joli. Et on voit la prise de la turbine qui vient alimenter le rotor de l'alternateur qui, justement, a produit l'électricité. Et ensuite, il remontait avec des cannes.
L'électricité se fait avec le courant de l'eau.
Maintenant,
c'est
oui.
Tout ce qu'il faut.
Maintenant, si vous savez, bon, les barrages et tout ça, ils produisent de l'électricité. Hein. Et c'est la force du courant qui fait que ça produit de l'électricité, tout simplement. Et ça, c'est le moteur d'origine de 1913. Et là, vous avez la cloche d'embauche. Pas d'embauche, c'est absolument faux, c'est plutôt la cloche d'ébauche. Eh oui, parce que bon, les gens n'avaient pas à l'époque n'avaient pas de montre, ils ne travaillaient pas à l'heure, on va dire. Donc disons, quand ils faisaient sonner la cloche, les gens arrêtaient de travailler. Je vais faire aller tout doucement parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Mm-hmm. Elle tape très fort, celle-là.
Oui. S'agissant des pièces que vous proposez à la vente, là, à l'entrée, ça veut qui sont façonnées, travaillées, bijoux.
C'est qui fait ça ? Notre petite association des marbres et des espiadés. Nous sommes 4 ou 5 à travailler justement des morceaux de pierre, on va dire, qu'on vend, bien sûr. Ça nous fait rentrer un peu d'argent à l'association, tout simplement.
Donc ça veut dire quand même qu'il y a eu une transmission de ce savoir-faire ?
Faire ça, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Oui, non, mais il faut avoir les outils qu'il faut, bien sûr. Hein. Et après, quand on connaît le système, c'est pas compliqué de travailler. Mais c'est plus compliqué quand il faut faire quelque chose de spécifique, on va dire.
Hein. Vous faites ça ici ?
Oui, ici.
Donc vous avez les outils
qu'il faut. À la maison, ça fait trop de poussière. Voilà, c'est ça le problème. Ça fait énormément de poussière.
Voilà, donc vous-même, Monsieur Maviel, vous travaillez là, vous savez.
Je bricole. Non, on ne faut pas parler comme de travail. On va parler que nous bricolons quelques petites pièces de temps en temps quand ça nous fait plaisir. Point. Nous travaillons pas. Voilà. On a assez travaillé comme ça dans notre vie. Hein.
On peut savoir ce que vous faisiez dans votre vie ?
Oh là là, j'étais négociant en vin, embouteilleur.
Ah bah rien à voir avec le marbre.
Absolument rien à voir avec le marbre.
Bon. Alors dernière petite indication, puisque vous avez répété assez souvent que les auditeurs peuvent venir, qu'il faut d'ailleurs venir ici pour voir et se rendre compte. Comment on fait pour venir ? Est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture spécifiques ?
Normalement, il y a des horaires d'ouverture, on va dire à partir de mi-juillet jusqu'à fin septembre. Nous sommes ouverts tous les après-midi, à partir de 14h. Et par contre, le lundi, il y a des visites, ce qu'on appelle les visites guidées par M. Gion, qui est un spécialiste, dont, le coût de la visite est un petit peu plus cher, mais bon, vous en avez largement pour votre argent, parce qu'il faut compter pratiquement 2h30 de visite avec M. Gion. Nous, par exemple, la visite que nous faisons faire dure à peu près 1h30, disons, entre les explications que nous donnons sur le site ici, ensuite les projections vidéo que nous montrons, et ensuite le passage sur la carrière elle-même. Voilà, il faut compter 1h30 de visite, et bon, une visite coûte 5 euros en dessus de 15 ans. Voilà. Entre 12 et 15 ans, c'est simplement 3 euros, hein.
Voilà,
c'est gratuit.
En dessous, c'est gratuit. Et en plus, on est dans un cadre absolument magnifique. Les marbrés de l'Espiadé. L'Espiadé, c'est le lieu-dit, en fait. Hein.
Voilà. Ah oui, complètement, c'est l'Espiadé. Ça s'appelle l'Espiadé.
Voilà, on est à Payolles, juste avant le col d'Aspin, au pied du col d'Aspin. Voilà. Et pour tout renseignement, il y a un numéro de téléphone, le 06 86 33 87 60. 06 86 33 87 60. Merci pour votre accueil et vos explications passionnantes.
Eh bien, moi, je vous remercie de votre visite.
Eh bien, voilà. Vous qui êtes de passage dans notre belle région, si vous avez une petite après-midi à passer agréablement, eh bien, sachez que vous serez très bien accueillis à Payolles. Chers auditeurs, je vous rappelle que l'intégralité de ce reportage, vous le retrouvez bien sûr sur le site de Radio Présence, radioprésence.com, dans la rubrique « Interview ». Et reportage, dans quelques instants, si vous le voulez bien, nous parlerons littérature avec Catherine Albrecht. Elle nous présentera aujourd'hui un auteur qui a écrit sur notre belle région. Il s'agit de Joris Karl Huysmans. On le retrouve dans quelques petits instants, juste après cette chanson qui nous rappellera la belle époque. Tiens.
Of all the boys, 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 boys. Of all the boys, of all the boys I've known, and I've known some. First met you was lonesome. Came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere Mr. Shame, please let me explain. By mere Mr. Shame means that you're grand. By mere Mr. Shame, again and again, means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Funderbar. Each language I'm leak out is sharp. How wonderful you are, I try to explain. By mere Mr. Shane, so kiss me, say you'll understand.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
L'Occitanie, un doux nom qui depuis des siècles a inspiré nombre d'écrivains célèbres. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants. Écoutez, voyagez, rêvez, admirez avec, aujourd'hui, Joris Carl Huysmans. Écrivain et critique d'art français, 1848-1907, Huysmans, catholique convaincu, livre « Dans les foules de Lourdes », un témoignage bouleversant sur la cité mariale et sa formidable machinerie dévotionnelle. Ce n'est pas la première fois que Huysmans demeure à Lourdes, il en connaît tous les recoins. L'époque des apparitions n'est pas si lointaine. Lourdes en est encore à organiser et les visiteurs ont accès à tous les lieux aujourd'hui réservés aux malades et aux soignants. Il peut donc nous livrer une description fouillée, quasi exhaustive, de cette énorme machinerie dévotionnelle, source inépuisable de stupeur et d'émerveillement. Si quelqu'un n'a jamais été stimulé par le désir de voir Lourdes, c'est bien moi. D'autant que je n'aime pas les foules qui processionnent, en bramant des cantiques. Et je suis l'avis de Saint Jean de la Croix, écrivant dans sa montée du Carmel, « J'approuve fort celui qui, pour ne pas se joindre à la foule des pèlerins, entreprend des pèlerinages en dehors de l'époque fixée. Quand les multitudes s'y pressent, jamais je ne conseillerais de s'y mêler. On risque d'en revenir plus discret qu'on y est allé. » On vit, il faut l'avouer, à Lourdes dans une température d'âme étonnante. C'est la chambre de chauffe de la piété. Ces hurlements ininterrompus de l'ave, ces remous de la foule que l'on a constamment sous les yeux, cette vue permanente des gens qui souffrent et de gens qui se gaudissent et mangent et boivent sur l'herbe comme un dimanche à Clamart finissent par nous abasourdir. On vit dans un milieu sans proportion. L'extrême des douleurs et l'extrême des joies, c'est tout Lourdes. À travers le regard et les mots de Joris Carl Huysmans, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant notre beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée, intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie », inspirant tous mes récits.
Merci Catherine Albrecht de nous faire vivre ces petits moments littéraires. C'est là-dessus que s'achève ce Présence Midi que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Je vous souhaite un très très bon appétit si vous êtes à table. Je vous souhaite également une belle prière puisque vous le savez, sur notre antenne tous les jours à 15h30, c'est l'heure de la prière en direct de la grotte de Lourdes avec la méditation du chapelet pour toutes vos intentions. Dans 3 minutes très exactement, ce sera l'heure de l'information sur Présence avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Très très belle journée à vous tous. Je sais mais je m'en vais. Que c'est mieux que mon boy. A daron, a gaison, et reine et taïwan.
J'ai déjà écrit une chanson. Elle dit mon pays a besoin du tien. Je te reconnaîtrai sur mon chemin. Elle cherche, elle court, elle vient, elle va et repart chaque fois. Marche et désordre et pour la mort et l'abandon. Le monde est beau, le monde est grand, si délicieux. Elle cherche, elle court, elle vient, elle va, elle dit. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, mais je m'en vais. Sous Manuel Minero, je sais, mais je m'en vais. Que c'est mieux que mon boy, à Daron, à Gaison. Rain et Taïwan.
Fais, c'est mieux que
Présence à Montauban, 93.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Les jeunes à Confesse aujourd'hui à Rome, les participants au Jubilé des jeunes se